l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes le mardi 8 novembre et le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis où se déroule l'élection du 45e président. Un scrutin à suivre évidemment sur RFI dès minuit avec nos envoyés spéciaux, de nombreux invités, des reportages. La nuit sera longue et théoriquement vers 4h du matin, nous connaîtrons le successeur de Barack Obama. D'ailleurs, demain matin, vous pourrez nous poser toutes vos questions sur le programme du vainqueur, sa politique étrangère, ce qu'il prévoit en matière d'emploi, de santé, d'éducation, d'immigration, de sécurité. Et sur tous ces dossiers, Hillary Clinton et Donald Trump ont véritablement des visions très différentes et les lignes de fracture entre les deux candidats sont nombreuses. En tout cas, ce matin, nous dressons ensemble un bilan des années Obama. Que restera-t-il de ces deux mandats à la Maison-Blanche ? Marie-Cécile Nave, spécialiste des États-Unis, nous accompagne ce matin. Merci encore d'être avec nous.
Merci.
Sociologue, politologue, je rappelle votre dernier ouvrage publié aux éditions FIP, Trump, l'onde de choc populiste. Avant de repasser au standard et d'accueillir Francine qui souhaite nous parler de l'Obamacare. Revenons d'abord sur la question de Yaya, juste avant le journal, qui ne comprenait pas pourquoi les deux autres candidats, le candidat du Parti libertarien et la candidate écologiste, étaient si peu médiatisés aux États-Unis. C'est vrai qu'on ne les a pas vus à la télévision, très peu. Ils ont même été privés de débats télévisés. Est-ce normal dans un pays qui se présente comme étant le champion de la démocratie?
Pour être dans les débats télévisés, il faut être crédité d'au moins 15% dans la moyenne des sondages. Ce qui a failli marcher pour Johnson en fin août, début septembre, en août en tout cas, il était à 8, 9, parfois 10% d'intention de vote. C'était beaucoup de gens qui, du côté des indépendants ou des conservateurs, étaient réticents à voter Trump. Et puis après, la dynamique s'est enclenchée. Et puis Johnson a lui-même fait un certain nombre d'erreurs dans des interviews. Et on lui a demandé où était Alep. Il ne savait pas ce que c'était Alep.
Donc ce sont les instituts de sondage qui donnent la possibilité ou non à un candidat d'être médiatisé.
Oui. Bon. Oui. Mais ça peut se justifier aussi. Parce que sinon, il y aurait pléthore de candidats. Et puis on y verrait quand même moins clair s'il y avait 3, 4, 5 candidats dans les débats télévisés.
Déjà, avec ce système, il y a quand même peu de chances de mettre fin à l'alternance systématique entre démocrates et républicains dans le système politique américain.
Oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que chacun des deux grands partis rassemble le plus. Et c'est une tradition que peut-être il faudra revoir plus en amont. C'est une tradition qui date des débuts de la démocratie américaine, ou quasiment, 19e siècle en tout cas. Et voilà, c'est pour éviter l'éparpillement de voix, c'est pour éviter pour donner un cadre quand même. Et ce cadre se justifie. Après, chacun des deux partis a sûrement une mise à jour à faire sur un certain nombre de choses, sur son rapport à la démocratie, sur sa prise en compte des évolutions de la société américaine. Je pense en particulier aux républicains qui est assez peu en phase avec les évolutions, notamment démographiques. Mais c'est plus à chacun des deux partis de faire une mise à jour et de regarder ce qui se passe vraiment autour d'eux.
Que retiendrez-vous du passage de Barack Obama à la Maison Blanche ? Quel bilan dressé de ces 8 années passées dans le bureau ovale ? Francine, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Paris.
Les auditeurs des RFI.
Merci. Vous nous interpellez, vous, sur l'Obamacare.
Voilà. L'Obamacare qui, de mon point de vue, est la réforme emblématique qui marquera les deux mandats de Barack Obama. Pour trois raisons principales. La première, c'est que c'est vraiment l'Obamacare qui a l'impact le plus important, positivement, sur le plus grand nombre d'Américains. Parce que cette réforme du système de l'assurance maladie universelle a eu un impact effectivement important sur les populations les plus en marge du rêve américain, les populations pauvres.
Alors Francine, justement, notre invitée Marie-Cécile Nave vous écoute attentivement. Vous aviez l'air de douter lorsque Francine parlait d'assurance maladie universelle. Vous avez tiqué, si vous me permettez l'expression, sur ce mot universel.
Oui, c'est pas une assurance maladie universelle dans le sens où c'est pas une assurance publique. C'est une assurance privée. On a tendance à l'oublier. Les Républicains qui demeurent quand même en partie, pas tous. Hein. Il y en a qui sont faits à l'idée de cette loi, mais ceux qui sont contre continuent à dire que c'est de la dépense publique. Non, c'est les entreprises et les particuliers qui payent leurs primes d'assurance, avec évidemment des choses qui sont mises en place pour les plus démunis, une extension de Medicaid, par exemple, c'est-à-dire l'assurance santé des plus démunis. Et là encore, les États fédérés ont une marge de manœuvre pour gérer la question de Medicaid au cas par cas.
L'objectif de Barack Obama, c'était de permettre à plus de 40 millions d'Américains d'avoir une assurance maladie. Trois ans plus tard, puisque l'Obamacare est en vigueur depuis trois ans, c'est un bilan tout de même en demi-teinte. J'ai envie de dire, seulement 20 millions d'Américains sont désormais assurés grâce à ce programme de Barack Obama. Est-ce que vous partagez l'engouement de Francine qui est toujours au standard avec nous?
Oui, mais en l'espace de 5 ans, c'est quand même énorme. Il y a un énorme pas qui a été fait. Il faut que les choses se mettent en place petit à petit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une opposition tellement forte au Congrès contre cette loi ça a mis du temps pour qu'elle soit en place. Deux décisions de la Cour suprême pour la valider. Donc forcément, ça prend un peu de temps. Donc 5 ans à l'échelle de l'histoire des États-Unis, c'est peu.
Ouais. Francine, vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, c'est effectivement mettre l'accent sur les entraves du Congrès qui ont tout de même fait que ce projet n'a pas eu la portée qui était prévue initialement. Mais pour le plus grand pays, la plus grande économie mondiale, c'est tout de même important qu'il y ait une évolution favorable auprès des couches sociales les plus défavorisées, qui, avant la mise en place de cette réforme, était dans une situation qui n'est pas très différente de celle dans laquelle vivent les plus pauvres, les populations les plus pauvres des pays africains, c'est-à-dire pas de couverture médicale.
Effectivement.
Je rajouterai également que l'impact de Michelle Obama en termes de contribution à la lutte contre la malbouffe et contre l'inactivité aura dans les années qui viennent un effet favorable sur la santé des Américains.
Et au-delà, puisque vous parlez de Michelle Obama, au-delà de sa mobilisation justement contre la malbouffe, Marie-Cécile Nave, Michelle Obama a réinventé la fonction de première dame aux États-Unis, non?
Oui, Michelle Obama, c'est quelqu'un qui participe de la légitimation des femmes dans l'espace public, puisqu'avec elle, la première dame n'est plus en retrait par rapport au président et n'est plus un faire-valoir du président. C'est quelqu'un qui existe en tant qu'elle-même, qui a eu un engagement militant depuis longtemps, quand elle était avocate déjà, un engagement citoyen au-delà de la simple action caritative traditionnelle des femmes de président, puisqu'elle a fait beaucoup de choses pour l'enfance défavorisée, pour les classes populaires, comme l'auditrice l'a dit, sur la question de l'alimentation dans les écoles, sur encourager les Américains et notamment les enfants de la communauté noire, souvent défavorisés, à faire de l'activité physique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a un discours politique fort.
Et justement, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Michelle Obama aura le même parcours qu'Hillary Clinton. Se lancera-t-elle en politique?
C'est une question, effectivement, qui est tout à fait légitime. Alors, Barack Obama a dit il y a une quinzaine de jours en riant qu'elle ne serait pas la prochaine candidate à l'élection présidentielle, mais on ne peut pas exclure un mandat local pour elle. Elle est jeune en politique, elle a 50 ans.
Donc d'abord gouverneur.
Elle est ultra populaire, plus que lui. Elle est ultra populaire et puis elle donne une image positive et d'espoir à la société américaine.
On va repasser au standard, il est 9h49 ici à Paris. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes au Bénin, on vous écoute.
Oui, durant le mandat de Barack Obama, il y a eu des bavures policières contre les communautés noires aux États-Unis. Donc la question est, Barack Obama... Qu'est-ce que Barack Obama a pu faire contre cette discrimination et réduire les tensions policières?
Il était très attendu sur ce point. Marie-Cécile Nave, il n'a pas fait grand-chose. En tout cas, ça lui a été reproché beaucoup de fois au sein de la communauté afro-américaine.
Oui, c'est vrai que la question des violences policières et de la violence raciste en général, on attendait beaucoup de choses d'Obama sur ce terrain-là. Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait plus de bavures policières, plus de violences racistes dans les années Obama qu'avant. Simplement, maintenant, c'est plus connu en raison des réseaux sociaux, de la mobilisation de la jeunesse, notamment la jeunesse afro-américaine avec Black Lives Matter, la circulation des vidéos, des images qui ont joué considérablement pour qu'on sache vraiment ce qui se passe. Obama a été élu avec un discours auquel on n'a pas forcément prêté toute l'attention à l'époque, qui voulait une société post-raciale, une Amérique post-raciale, à savoir qu'il ne voulait pas être le président des Noirs, mais le président de tous les Américains. Et donc, il s'est bien gardé de faire des choses spécifiquement pour la communauté afro-américaine, même s'il en a fait quand même, avec l'accès facilité aux études supérieures pour les classes populaires, et dans les classes populaires, il y a beaucoup de Noirs, avec
l'Obamacare, par exemple.
Voilà, j'allais le dire, la réforme de la santé aussi, c'est à partir du moment où vous ciblez la petite classe moyenne ou les classes populaires, forcément vous allez retrouver une grande partie de la communauté noire. Mais quand même, on lui reproche une chose qui on lui reproche légitimement, le fait que c'est quand même la classe moyenne noire qui en a bénéficié de toutes ces politiques d'Obama, et les plus démunis sont encore plus pauvres qu'avant. Et ça, c'est un truc général aux États-Unis depuis la crise de 2008. Les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches se sont accrues. Sur la question des violences policières, il s'est surtout contenté d'envoyer des messages d'apaisement à la population en disant, en appelant à plus de tolérance, en essayant quand même d'influer sur la manière dont dans les États concernés, dans les villes concernées, la justice soit plus clémente vis-à-vis des Noirs, que la police soit plus clémente. Mais il n'a pas ce pouvoir. C'est aussi un pouvoir des villes et des États fédérés. Quand vous avez des jurys entièrement blancs, quand vous avez une police blanche, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ouais. On va repasser au standard sur un tout autre sujet, puisque nous dressons ensemble le bilan des années Obama. Quel événement vous a marqué durant ces 8 dernières années? Joseph Fémé, vous êtes à Libreville. Bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et pour vous, l'événement de ces 8 dernières années, c'est la mort de Ben Laden.
Et voilà, pour moi, c'était la mort de Ben Laden, parce que il faut dire que Barack Obama a mené une opération à très haut risque au Pakistan, et cette opération était à risque parce que si elle échouait, écoutez, c'était la crédibilité d'Obama qui allait réellement pâtir. Et je pense que à cette période, il s'est réellement montré comme le véritable commandant en chef d'une mission importante, monumentale, qui a mené la mort de l'ennemi public numéro un des États-Unis pendant près de 10 ans.
Ouais, Marie-Cécile Nav, c'était une décision courageuse que de vouloir exécuter Ben Laden.
Oui, sans doute. C'était symbolique, je pense, pour le peuple américain aussi, parce que le neutraliser simplement, ça aurait pas eu la même portée. C'est vrai que c'était, comme vous l'avez dit, l'ennemi public numéro un vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'armée aussi. C'est un message fort qui est envoyé par Obama. Ça contraste vraiment avec le reste de la politique étrangère du président américain. Dans le sens où il a voulu quand même être souvent dans le compromis, dans le multilatéralisme, pas vouloir envoyer des troupes au sol en Syrie, être dans une certaine réserve, dans une certaine mesure. Mais bon, là, c'était solder le passé avec Al-Qaïda, et puis Daesh, c'est une autre histoire.
Enfin, concernant la Syrie, c'est plus que de la retenue. On peut même parler de reculade. Il avait lui-même fixé une ligne rouge à ne pas franchir.
Les armes chimiques
utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Malheureusement, il n'a pas tenu parole sur ce point, par exemple.
Oui, là-dessus, il a déçu, mais en même temps, en termes de politique militaire, il a été confronté à un certain nombre de difficultés. D'abord, la question financière, parce que les finances publiques des États-Unis n'ont pas été très bonne dans les années 2009, 2010, 2011. Hein. Il fallait redresser les comptes après la crise financière. Et puis la guerre en Irak et en Afghanistan de Bush avait coûté tellement d'argent que c'était un vrai gouffre. Et puis en termes de coûts humains aussi, il avait peur de s'engager dans un nouveau bourbier. Les Américains avaient tous en tête les années Bush.
Bonjour Fatou.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry. Que retiendrez-vous des deux mandats de Barack Obama ?
Ben, je retiens d'abord que quand il a eu le prix Nobel la première fois, qui a été controversé, mais au deuxième mandat, il a bien rattrapé. Et je vois bien la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Et c'est quelque chose que je pense qui est vraiment positif et qui a justifié l'octroi du prix Nobel de la paix au mandat précédent.
Au mandat précédent, non, il a eu son prix Nobel de la paix quelques 2009. Mois après son élection. Il méritait le prix Nobel de la paix, Marissa Simina.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'auditrice, à savoir que la deuxième partie, le deuxième mandat d'Obama restera plus dans les livres d'histoire que la première partie, que le premier mandat, pardon, en termes de politique étrangère, parce que autant il a des gros échecs. Sur la question du conflit israélo-palestinien, où Israël l'a humilié plusieurs fois. Les liens avec la Russie, les relations avec la Russie sont exécrables, elles se sont vraiment dégradées au fil des années. En revanche, ces dernières années, il faut mettre à son crédit la normalisation des relations avec l'Iran, dont il a été un des grands acteurs. C'est quand même un progrès important, même si la stabilité dans cette région du monde, on le sait, est fragile. Et puis bien sûr, la stabilisation, plus que ça, la normalisation des relations
avec Cuba,
qui se feront beaucoup sur un plan économique. Hein. L'économie va beaucoup gouverner la politique étrangère vis-à-vis de Cuba, c'est indéniable. Et effectivement, je suis assez d'accord avec le fait de dire que finalement, ce prix Nobel de la paix, au début, ça faisait un peu grincer des dents, mais si on prend les deux mandats ensemble, ça peut avoir sa justification.
Enfin, en même temps, c'est vrai qu'il se présentait un peu comme une colombe il y a 8 ans, il va quitter la Maison Blanche avec des militaires sur le terrain en Afghanistan, en Irak et une coalition qui intervient en Syrie.
Oui, les Américains font la guerre et il y a des choses aussi dont on parle peu qui est l'utilisation tout à fait inédite par Obama des drones pour faire des assassinats ciblés. Hein,
ouais.
Donc c'est pas un pacifiste. Hein.
Effectivement, et vous avez raison de rappeler l'utilisation massive des drones, notamment au Pakistan. On va terminer car on est obligé de rendre l'antenne avec Alpha. Bonjour Alpha.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry et vous êtes déçu, vous, du bilan d'Obama?
Oui, tout à fait. Il n'a pas été à la hauteur des attentes et des espoirs qu'on portait à lui. Je me rappelle le lendemain de sa première élection, Amadou Toumani Touré, président du Mali à l'époque, et Boni Yayi du Bénin, ils avaient dit qu'ils avaient passé une nuit blanche pour observer le déroulement du scrutin. C'est pour vous dire qu'il y avait un espoir, qu'il y avait une fierté.
En Afrique, sur le continent africain.
Oui, bien entendu, mais partant maintenant de son discours au Ghana, au-delà de sa célèbre phrase « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes », il avait dit que l'Afrique ne correspond pas à la caricature grossière d'un continent perpétuellement en guerre. Mais plus tard, il a soutenu le printemps arabe, il a renversé des régimes, aujourd'hui c'est la catastrophe en Libye, et il a renversé un président légalement et légitimement élu en Égypte, et il a été le parrain dans le partage du Soudan du Sud, il a laissé le Soudan du Sud après l'obtention de son indépendance. Aujourd'hui on parle d'une guerre civile, et peut-être demain on va parler d'un génocide. Boko Haram sévit et détruit beaucoup de pays en Afrique, il n'a rien fait. Et comparativement à ses deux prédécesseurs, Bill Clinton et George Bush, qui ont beaucoup de continents.
Le réseau se dégrade, excusez-moi, mais vous aviez l'air d'être dubitative, Marie-Cécile Nave, en quelques secondes malheureusement, par rapport à ses prédécesseurs.
Je suis pas sûr que George W. Bush ait fait beaucoup de choses en faveur de
l'Afrique. En tout cas, concernant la lutte contre le sida, indéniablement, George Bush a mis en place un programme qui fonctionne très bien.
Oui, oui. Après, bon, c'est vrai que Obama a déçu nécessairement, mais il y avait tellement d'espoir qui était porté sur lui. Et en matière de politique étrangère, c'est quelqu'un qui a jamais voulu agir seul et qui voulait s'allier à la communauté internationale, donc ça s'explique aussi de cette manière.
Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'être venue dans le studio des RFI pour répondre aux nombreuses questions des auditeurs. Claire Edon, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous retrouve dans 10 minutes, vous continuerez à dresser le bilan de Barack Obama, gros plan évidemment sur la politique santé.
Et l'Obamacare, ce système de couverture maladie universelle qui a été très critiqué par certains. La